d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Voici venue notre dernière émission de la saison 2016-2017. Dans la seconde partie, je vous parlerai du programme des émissions pour 2017-2018 et je vous offrirai 5 coups de cœur pour vos vacances. Mais dans cette première partie, nous allons écouter des extraits de 5 émissions de la saison qui s'achève. D'abord, extrait de l'émission Écho du Monde en décembre 2016. Puis la voix de Gaston Bachelard en janvier 2017. Puis Azouk Begag, écrivain, chercheur, ancien ministre, en février. Développement, écologie et apprentissage tout au long de la vie en mai dernier. Enfin, Jérôme Segoums, écrivain du Pays de Grâce historique et plus précisément de Montsartou, en mai 2017. La musique qui nous accompagnera, ça sera celle de Schrom, peu connue peut-être de vous, auditeurs, et que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, pièce en écho. Écoutons ces échos de cette saison qui vient de se terminer. André Peretti, spécialement écrit pour cette émission. Merci André, et bon chemin vers vos 101 ans en 2017. C'est futur déjà parmi nous, pour quel devenir? Le devenir n'est-il pas toujours paradoxal, nanti de prévisions sûres et d'hypothèses ambiguës, sinon contradictoires et incertaines? Et que nous apporte le futur, sinon la croissance d'automatismes, ainsi que la disposition accélérée d'informations et d'échanges, ou de mise en projet, plus précisément de mise en programme. Et le présent nous offre simultanément des rapprochements respectueux entre des valeurs. Et des fois, jadis en conflit, mais de plus en plus élevé vers un œcuménisme mondial en son rassemblement de recueillement, comme San Egidio à Assise. Mais l'avenir semble devoir s'épanouir dans les relations intercivilisations, pour lesquelles s'entrelacent les variétés d'un système de services réciproques, chacun appelé à offrir et à recevoir ce qu'il souhaite partager en contrepartie de ce qu'il peut proposer, chacun et tous. Le devenir semble disposé à permettre aux hommes de comprendre et d'historiser le monde dans l'évolution de ses évolutions et ses démarches vers l'un. Enfance, sagesse, amour. Oui, l'alliance et l'harmonie de ces trois mots. Pour cela, seul le politique, d'abord et non la politique, peut nous conduire à construire un monde plus humain et en proximité et en humanité, et demain dans le cosmos. Quatre mots qui portent, si nous le voulons, notre devenir. Alors je formule le vœu que le « je veux » de chacun s'incarne pour l'enfance, la sagesse, l'amour et le politique.
Jamais.
Ah bon?
Non, appelez-moi Gaston Bachelard, Bachelard, c'est tout.
Oh non, non, non.
C'est pas, pas monsieur le professeur.
Moi, je
pas de blague, hein, non, non, c'est fini. Hein.
Ah bon.
Je suis un homme absolument dans la liberté. Non, tout le monde m'appelle Bachelard. Quoi. Hein.
Voilà.
Non, non, pas, 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 suite, pas trop de maître.
À cause de mon intervention.
Non, non, non.
Quand nous sommes arrivés tout à l'heure, vous écoutiez la radio. Est-ce que l'actualité vous préoccupe beaucoup?
Elle me semble indispensable. Ma fille m'a acheté un transistor et je prends tous les flashs depuis 7h30, n'est-ce pas, jusqu'à 9h du soir. Et d'heure en heure, n'est-ce pas?
Pourquoi?
Parce qu'en 3 minutes, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, n'est-ce pas? Et que le monde m'apporte des nouvelles de l'univers, c'est parfait. Je ne peux pas m'en passer.
C'est pas forcément des événements importants.
Ah ben oui, c'est des événements au moment où ils se produisent. Et sans beaucoup de commentaires. Quand j'écoute quelquefois des commentaires, ils me déçoivent souvent. Alors les films suffisent, et puis moi je fais mes pauvres commentaires à ma façon.
Est-ce qu'il y a une définition du philosophe, justement, pour
ça? J'en ai donné une quand j'enseignais, mais je l'ai perdue. Hein? Pourquoi voulez-vous qu'une? C'est un professeur de sagesse, comme on disait jadis.
Je vous dis ça parce que,
oui,
parmi les idées courantes qui règnent chez les gens qui ne font pas de philosophie, oui, à propos des philosophes, on pense en général que la philosophie, ça sert à rien.
Oui, mais à mon avis, ça sert à penser. Alors, si vous voulez, n'est-ce pas, vous priver de pensée originale, vous pouvez vous passer de philosophie.
Est-ce qu'un philosophe, c'est un être supérieur aux autres hommes?
Ce n'est tout de même pas Dieu le Père, vous savez. Non. Il n'y a pas d'homme supérieur les uns aux autres. Je ne crois pas. Je n'ai pas la mystique de la hiérarchie, n'est-ce pas? Par conséquent, les gens sont ce qu'ils peuvent être, n'est-ce pas? C'est pas toujours très commode d'être égal à soi-même. Alors quoi? Je ne comprends pas qu'on puisse se comparer aux autres.
Des usines dans les immeubles à Itaque finir leur vieux jour. Et finalement, on construit leur maison, celle du retour, et n'y sont jamais retournés.
L'humanité suppose le dépassement de l'humanité actuelle. Elle suppose que, de même que l'essor d'Homo sapiens se fit dans la disparition de Néandertal, d'Erectus et des autres espèces hominiennes, de même le post-humain se fera dans la disparition de l'humain. Mais un véritable progrès post-humain suppose la sauvegarde et le développement des qualités d'âme, d'esprit, de cœur encore sous-développées et si fragiles chez l'homme. Notre conscience nous enseigne que l'avenir de l'humanité dépend aussi de l'avenir de la conscience. Il est tragique que la métamorphose post-humaine ait commencé sous la poussée aveugle du triple moteur scientifique, technique, économique qui propulse le vaisseau spatial Terre, alors que la métamorphose éthique, culturelle, sociale, de plus en plus indispensable à cette métamorphose, demeure encore dans les limbes. Pire, la régression éthique, psychologique, affective, accompagne la progression scientifique, technique, économique. La régénération d'un humanisme devenant planétaire et s'enracinant dans la terre patrie est nécessaire pour éviter le règne de la nouvelle espèce des seigneurs, disposant de tous les pouvoirs, dont ceux de la prolongation de la vie, sur l'ensemble des autres humains asservis. Là où les métamorphoses biologiques, techniques, informatiques nécessitent surtout d'être accompagnées, régulées, contrôlées, guidée par une métamorphose éthique, culturelle, sociale. Celle-ci est nécessaire pour éviter le pouvoir des machines pensantes, dont nous dépendrons, même si elles dépendent de nous et qui pourraient peut-être s'émanciper de nous, voire acquérir une conscience, ce qu'avait prédit Gotthard Günther, et dominer le destin post-humain. La métamorphose transhumaine est propulsée par des forces anonymes incontrôlées qui sont inconscientes du destin qu'elles produisent. La métamorphose humaniste a certes besoin des puissances inconscientes de l'espèce humaine, mais aussi de forces éthiques et réflexives conscientes des individus. Les nouveaux pouvoirs post-humains seraient inhumains s'ils n'étaient pas sous contrôle d'une humanité ressourcée au meilleur d'elle-même. Ajoutons que les promoteurs du transhumain sont enfermés dans une pensée euphorique qui leur occulte l'avenir catastrophique que produit la trinité sans frein, science, technique, économie. Ils ignorent que la science, désormais liée à la technique en technoscience, est une formidable machine incontrôlée qui travaille pour le bien et le mal, la vie et la mort. Ils sont inconscients de la complexité contradictoire que porte en elle la trinité science-technique-économie. Ils sont inconscients que la part de réalisme dans la prédiction transhumaniste est stérilisée par l'inconscience des processus catastrophiques qui contamineront le transhumanisme. Ils sont inconscients que les deux avenirs, commandés par la même trinité, seront en interaction et rétroaction. Et surtout, ils sont inconscients qu'aussi bien pour éviter les catastrophes que pour éviter l'inhumanité de la post-humanité, il faut une profonde réforme intellectuelle et morale.
Jérôme, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes mis à écrire, en vous, selon vous ?
Je me sens mieux, je suis plus accompli, on va dire. J'ai vraiment trouvé un équilibre, je veux dire, une force, en fait. Écrire, c'est vraiment une force pour moi. Donc, on peut faire rêver les gens, on peut faire pleurer les gens, on peut faire aimer. Moi, j'ai aimé lire à 15 ans parce que je suis tombé amoureux d'un personnage de Cronin dans mes vertes années, amoureux de la femme du jeune auteur, qui meurt à la fin, et j'avais pleuré comme une madeleine. Et j'en ai terriblement voulu. Je n'ai pratiquement plus jamais lu un Cronin après, parce que voilà, je sais que c'est stupide, hein. Mais voilà, je ne savais pas qu'on pouvait tomber amoureux au travers les livres. Et c'est ces émotions-là que je recherche depuis. Je veux dire, pas que l'amour, évidemment, hein, mais que j'aimerais transmettre. Je veux dire, le poids des mots, c'est impressionnant. Et moi, c'est ça que je veux faire.
Alors ça, je suis bien d'accord. Le poids des mots, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'unique. Vous avez des échos des gens qui vous lisent. Qu'est-ce qui remonte vers vous en général ?
Pour le premier livre, les gens m'ont tous dit, grâce à vous, on ne vous connaît pas, mais vous faites partie de notre famille et on fait partie de votre famille.
Quel beau témoignage.
Oui, voilà. C'est quoi demander de plus ? C'est extraordinaire, quoi. Donc, pour le deuxième, on m'a dit, c'est génial. Enfin, c'est évidemment aucun rapport. Donc, on m'a dit, c'est génial, mais on m'a demandé, voilà, si c'était vrai. On m'a demandé, mais ces souterrains, ils existent. Je fais, ben oui, sinon, je n'aurais pas raconté l'histoire. Donc, j'étais d'ailleurs étonné que personne n'ait jamais sorti un livre sur la souterraine grâce. Et comme, voilà.
Alors, à ce propos, vous étiez au lycée Fénelon, et le lycée Fénelon a vérifié qu'il y avait bien des souterrains.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Oui, tout à fait. Et exactement comme je le décris, parce que voilà, j'y suis réellement allé, donc, il y a moultes années. Et voilà, quoi. Donc, des souterrains qui rejoignent, bon, on peut plus les rejoindre la cathédrale à pied vu que c'est effondré en partie, mais bon, il y a d'autres endroits sympathiques à découvrir. Et c'est vrai que.
Qu'est-ce qui traverse votre écriture ? Vous touchez à des styles différents, vous essayez d'entrer dans des modes d'écriture différents, mais il y a un fil d'Ariane. Quel est ce fil d'Ariane ?
Ben, en fait, c'est. Moi, ce que j'aime, c'est la simplicité. Je veux dire, je rêve de. J'aurais rêvé d'être explorateur. Mon grand rêve, c'était d'être paléontologue, archéologue, ce que je ne suis pas. Et donc, c'est voyager à travers les mots. Je veux dire, moi, c'est ça, ce fil conducteur, en fait. C'est d'écrire simplement, le plus simplement possible, pour faire voyager un maximum de monde.
Merci, Jérôme. Je vous offre cette phrase de Louis Lavelle que j'aime beaucoup. Le propre de l'écriture, c'est de capter l'éternel dans le temporel, c'est-à-dire de nous obliger à nous porter nous-mêmes dans le temps au-delà du temps. Après les informations, chers auditeurs, la deuxième partie, programme pour l'an prochain et 5 coups de cœur pour les vacances. Ne quittez pas l'antenne. D'écriture 2017-2018. Voici les 25 émissions que je vous propose pour cette nouvelle saison 2017-2018. Certes, il y aura probablement des ajouts de dernière minute pour tenir compte de l'actualité, mais nous ferons tout pour maintenir ces thèmes, quitte à les déplacer dans les 4 autres séries prévues que vous pouvez retrouver sur le site avec cette émission www. En petit caractère et relié, art au pluriel, culture au pluriel, education.com/. Nous continuerons de naviguer entre le local, le régional, le national et l'international. En 2017-2018, nous ferons plus d'émissions thématiques soucieux de nos vies et de nos devenirs. De plus, nous mélangerons différents types d'écriture, romans, biographies, essais, études et recherches et poésie. Voici les thèmes que je vous propose. D'abord, les deuxièmes triades de paroles d'écriture, 3 émissions de suite. Cette année sera le thème « Apprivoiser, créer des liens ?» Et la conclusion sera confiée à Boris Cyrulnik, auteur d'un livre majeur, souvent oublié, « Sous le lien ». Autre thème, « Amour, de quoi s'agit-il » Non pas de quoi parlons-nous seulement, mais de quoi s'agit-il ?
Est-ce que vous savez, chers auditeurs, que sur Google, le mot « amour », « love », a 1,5 milliard d'entrées, alors que le mot « bonheur » stagne à 67 millions. Quel est le philosophe qui n'a pas écrit sur l'amour ? Mais peut-on se contenter de leur écrit ? Pour cette émission, nous avons cependant choisi un philosophe, Augéen, né en 1949, et qui nous a quittés il y a un mois. Son livre « Philosopher ou faire l'amour » est un livre fort bien documenté, vif, plein d'humour, et qui ose poser des questions tout azimut. Nous avons choisi aussi un médecin, psychothérapeute, Frédéric Fanger, qui en particulier a écrit l'ouvrage remarquable « Oser la vie à deux ». Je vous assure une émission très originale qui vous ne laissera pas indifférent et qui prolongera les autres émissions sur l'amour que nous faisons chaque année. Un autre thème, enfance. Ah, cette enfance qui pétrit notre vie. Schopenhauer, philosophe beaucoup trop méconnu, dit ceci. En réalité, tout enfant est dans une certaine mesure un génie, et tout génie est en quelque façon un enfant. Pour cette émission, nous accueillerons plusieurs écrivains, et en particulier Roger Paul Droit, qui vient de publier un livre sur l'enfance qui s'appelle « Esprit d'enfance ». Autre thème, communiquer c'est quoi ? Qui ne reconnaît pas la primauté de la communication ? Mais là aussi, de quoi parlons-nous ? Nous accueillerons Dominique Volton du CNRS pour son dernier livre « Communiquer c'est vivre ». De plus, nous essaierons d'aller plus loin pour mieux comprendre la communication avec d'autres auteurs. Autre thème, le silence. Vous connaissez Alain Corbin ? Non. Eh bien, c'est un grand monsieur de 81 ans. Historien spécialisé du 19e siècle, auteur de travaux sur la sensibilité reconnue sur le plan mondial, il est aussi auteur d'une remarquable histoire sur le silence. Il a accepté de participer à Parole d'écriture. Et pour la petite histoire, est-ce que vous savez que Alain Corbin, professeur à la Sorbonne, à Paris 1, a dans sa vie proposé régulièrement aux étudiants de faire une thèse sur le silence. Et aucun étudiant n'a voulu faire cette thèse. Alors, arrivé à l'âge de la retraite, il a écrit ce très beau livre sur l'histoire du silence. Autre thème, Moyen-Orient. Partie de notre monde proche et cependant si difficile à comprendre, nous essaierons avec des experts de comprendre l'histoire et les enjeux de ce Moyen-Orient si compliqué, si complexe, mais qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer sans doute encore dans les dizaines d'années à venir. Autre thème, Mexique, pays de contrastes et de couleurs. Combien d'auditeurs sont déjà allés au Mexique ? Combien rêvent d'y aller ou d'y retourner ? Nous vous rapporterons, à partir d'un voyage, un reportage sur ce pays de contrastes et de couleurs, en insistant sur les nouveaux écrivains qui surgissent et que nous ne connaissons pas encore en France. Notre domaine, la région PACA, nous continuerons nos explorations en essayant de découvrir ce qui se fait de très original en tant qu'auteur, éditeur, libraire, autre instance, contribuant à l'écrit et à sa valorisation. Autre thème que nous aurions dû faire cette année, mais par manque de temps, nous l'avons reporté d'un an, Italie si proche et si peu connue. Car connaissons-nous d'Italie en tant que littérature, en tant qu'écrivain ? À mon avis, bien peu de choses. Pays si proche et cependant si peu connu, alors j'essaierai de vous faire découvrir quelque chose de très original. Autre thème, l'enseignement supérieur. Est-ce que vous l'avez remarqué, le ministère en ce domaine se nomme désormais ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et d'innovation. Et à ce propos, nous vous proposerons un débat sur la situation présente en France et son devenir, sans négliger l'Europe et le monde. Nous recourrons à plusieurs auteurs et à des travaux en cours, à ce jour encore inconnus du public. Autre thème, éducation ou enseignement. L'éducation commande le devenir du monde, nous le disons régulièrement dans cette émission, mais la convergence très forte qu'il y a en ce domaine nous oublie souvent de discerner que l'éducation n'est pas l'enseignement, même si elle le colore. Un débat majeur pour chacun d'entre nous, à partir de ses enfants bien sûr, mais à partir de nous-mêmes, et nous essaierons là de réunir une table ronde de gens qui vous aideront à découvrir les enjeux majeurs qu'il y a sous cette expression « éducation ou enseignement ». Autre thème, la santé. Prendre soin. Si l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, l'espérance du bien-vivre stagne. Comment la technomédecine va bouleverser l'humanité ? plus que jamais, prendre soin de soi, de soi devient primordial pour bien vivre et vivre le mieux et le plus longtemps possible. Autre thème, avenir des terriens. Marc Auger, célèbre anthropologue, vient de publier « L'avenir des terriens ». Nous l'accueillerons dans cette émission pour essayer avec lui de découvrir son livre et surtout d'aller encore plus loin que ce qu'il écrit dans son livre. Autre thème, Joël de Rosnay. Son dernier livre, « Je cherche à comprendre ». Joël de Rosnay, c'est un auteur majeur, souvent oublié. Et en particulier, il est l'auteur du Macroscope ou de Surfait sur la vie. Nous l'accueillerons. Son message sera précieux pour comprendre le XXIe siècle. Autre thème, le numérique. En ce domaine, un livre particulièrement passionnant est sorti ces temps-ci, « L'homme nu ». La dictature de l'invisible à propos du numérique. Selon leurs deux auteurs, une Big Brother bien plus terrifiante encore que Big Brother. Demain, des hommes nus, sans mémoire, programmés, sous surveillance, point d'interrogation. Un débat majeur. Autre thème, les nouveaux âges de la vie. Avec l'espérance de la vie, il y a de nouveaux âges de la vie. Une invitation à les explorer, une invitation à concevoir son chemin faisant désormais autrement que ceux de nos parents et de nos grands-parents. Autre thème d'une grande actualité, humanisme et transhumanisme. Le thème du transhumanisme se développe un peu partout. Pratiquement une dizaine d'auteurs à ce jour ont publié des livres majeurs. Mais nous, pour étudier ce thème, nous accueillerons Thierry Magnin, auteur du livre « Penser l'humain au temps de l'homme augmenté face aux défis du transhumanisme ». Un débat passionnant et qui nous permettra de mieux situer les devenirs, les enjeux de notre humanité à ce propos. Autre thème, écrit. En deux émissions, nous essaierons d'explorer les écrits. Quel écrit majeur ? Doit-on dire auteur ou écrivain ? Nous essaierons de vous proposer une typologie pour essayer d'explorer ce domaine à la fois quotidien, mais souvent trop encore, souvent mystérieux. Autre thème, carte blanche. Cette année, nous le confierons à une femme. Nous le confierons à une femme en hommage à Simone Veil qui vient de nous quitter, qui un jour, c'est évident, sera au Panthéon, mais est désormais dans le Panthéon du cœur des Français. Et Simone Veil a beaucoup travaillé avant ce qu'elle a fait comme ministre pour les justes. Je rappelle cette phrase d'elle. En honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Eh bien, nous accueillerons une femme, et une femme qui a permis, dans notre région, à faire reconnaître des justes. Mais je cite aussi ces deux phrases de Simone Veil pour lui rendre hommage. La première, elle écrit « Ma revendication en tant que femme, c'est que soit prise en compte ma différence pour que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. » Et cette autre phrase, trop souvent oubliée, « Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. » Nous ferons aussi une émission sur ce vent du désert qui nous amènera d'une façon étrange, vous allez le découvrir avec moi, du quartier latin à l'Afrique. Puis nous aurons une émission sur notre humanité. Récemment, Edgar Morin, je le rappelais, très récemment, écrit « Aucune école, aucun lycée, aucune université n'enseigne dans sa complexité et sa globalité ce qu'est l'être humain », nous dit avec pertinence encore une fois Edgar Morin. C'est pourquoi désormais chaque année, nous ferons une émission sur ce thème. Voilà pour les émissions de 2017-2018. Vous voyez que le programme qui se prépare vous intéressera, je crois, beaucoup. Maintenant, je voudrais, avec vous, vous proposer 5 coups de cœur pour les vacances. 5 livres qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je vous en présente 2 moi-même, et puis je demanderai à Paola de vous en présenter 3. Moi, je vous présente d'abord « Un été avec Machiavel », écrit par Patrick Boucheron, aux éditions Parallèles. C'est un livre absolument passionnant. Et l'auteur nous rappelle ceci, l'intérêt pour Machiavel renaît toujours dans l'histoire au moment où s'annoncent les tempêtes. Car il est celui qui sait philosopher par gros temps. Si on le relit aujourd'hui, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il revient, réveillez-vous. Alors je vous conseille ce livre, il est très agréable à lire et facile à lire. Un deuxième livre, c'est « La poésie sauvera le monde » de Jean-Paul Siméon. Il dit, à la fin de ce livre, « Vivant poète sur la terre », ça serait tout simplement lutter pied à pied contre les forces qui poussent à l'exil pour habiter la vie entière et lui demeurer fidèle jusqu'à la mort. Nous n'avons qu'une alternative, c'est de vivre sur cette terre en poète et trouver le sens imprévu ou alors perdre notre humanité. Oui, la poésie nous sauvera si rien ne nous sauve. C'est un livre en livre de poche de Jean-Pierre Siméon, là aussi très facile à lire. Et nous allons maintenant écouter Anna qui va nous présenter les trois autres livres.
Sapiens. Malgré les choses étonnantes dont les hommes sont capables, nous sommes peu sûrs de nos objectifs et paraissons plus que jamais insatisfaits. Des canoës, nous sommes passés aux galères, puis aux vapeurs et aux navettes spatiales. Mais personne ne sait où nous allons. Nous sommes plus puissants que jamais, mais nous ne savons trop que faire de ce pouvoir. Puis encore, les humains semblent plus irresponsables que jamais. Self-made Dieu, avec juste les lois de la physique pour compagnie, nous n'avons de compte à rendre à personne. Ainsi, faisons-nous des ravages parmi les autres animaux et dans l'écosystème environnant, en ne cherchant guère plus que nos aises et notre amusement, sans jamais trouver satisfaction. Y a-t-il rien de plus dangereux que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu'ils veulent ? Le journal de Myriam. C'est un témoignage bouleversant qui vient de paraître aux éditions Fayard. Myriam Rawick a 13 ans, dont presque 5, passée sous les bombes à Alep. De la vie d'une petite fille heureuse aux violences de la guerre, l'adolescente a tout consigné dans un journal intime. Le journal de Myriam, un regard décalé et précieux sur le conflit syrien. Quand la guerre débute, Myriam a 8 ans. Jusqu'ici, sa vie était celle de n'importe quelle petite fille. Les copines, la famille, les goûters d'anniversaire. Sa vie bascule en novembre 2011. Les premières manifestations anti-régime, puis la répression, les bombes. En mars 2013, les rebelles islamistes entrent dans son quartier de Jabal Saïdé à Alep Ouest. La famille Rawick décide de fuir vers un quartier plus sûr. Le déracinement, la peur des bombardements, l'incompréhension face à cette violence devenue son quotidien, la fillette consigne tout dans son journal intime. Un témoignage recueilli par le reporter de guerre Philippe Lobjoie qui apporte un éclairage différent sur ce conflit aux conséquences mondiales. La guerre à hauteur d'enfant. En décembre dernier, les islamistes capitulent et évacuent son quartier. Quelques semaines plus tard, Myriam et sa famille ont pu y retourner. Mais de leur vie d'avant, rien ne subsiste. Leur appartement était saccagé. Leur quartier n'est plus qu'un amas de ruines. Ils ont volé ma maison, conclut tristement l'adolescente. Ils ont volé mon enfance. Une vie d'émotion. Il n'existe qu'un seul et unique être, dont chacun n'est qu'une facette. Tous, nous sommes unis les uns les autres d'une manière intime et profonde par ce lien précieux que l'on nomme amour. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Question fondamentale qui mérite pleine réflexion. Pour tenter d'y répondre, il nous faut sonder le plus profond de notre cœur, le plus profond de notre âme. On découvre alors que notre vie s'étend bien au-delà de l'espace et du temps. Celui qui parviendra à saisir toute l'étendue de son être, à élargir sa conscience au-delà des simples sensations que lui procure son corps, celui-là connaîtra le bonheur. Daniel. Lever du voile. Voilà, ma fin arrive et je quitte la terre. Après 80 ans passés parmi les hommes, mais je n'errai en effrayant fantôme. J'ai déjà accompli ce que j'avais à faire. Mon corps n'est plus utile et redevient poussière. Libéré, je m'en vais vers un nouveau royaume. Je vois toute ma vie depuis que j'ai été môme, jusqu'à mon dernier souffle, et dès lors, tout s'éclaire. Désormais, je comprends le sens de toute chose. Avec tout l'univers, je me sens en osmose. Tout ce qui vous arrive a une raison d'être. Rien qui ne se passe ne se produit pour rien. Poursuivez le chemin, tout comme vos ancêtres. Au bout de la route, triomphera le bien.
Une vie d'émotion, son auteur Daniel O'Doherty, qui nous a quittés à 25 ans. Ce livre, vous ne le trouverez qu'à un endroit, à Cabris. Allez voir Alain, le marchand de journaux, il est dépositaire de ce livre à 9 euros. C'est un très beau cadeau. Et puis dans les rues de Cabris, proche de Grasse, vous découvrirez des traces de nombreux écrivains. Vous croiserez peut-être sur la place Christian, dessin humoriste fort connu, Jean Mus, architecte et expert des jardins méditerranéens. Et puis peut-être nous croisons-nous aussi. Vient le temps de nous quitter. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis, tous ceux que nous avons accueillis aussi dans cette émission. Merci à Agora Côte d'Azur et plus précisément à son président, à Vicky, journaliste et responsable d'antenne, ainsi qu'à Philippe, très présent et précieux régisseur. Merci à Anna pour sa voix, sa présence, son rôle très professionnel, malgré ses 19 ans, comme webmaster du site. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Très belles vacances et en octobre pour une nouvelle saison, Parole d'écriture. On se quitte avec cette musique Mémoire de Geisha, qui est très jolie, très romantique et plus encore. Très belles vacances à chacun d'entre vous. Et en octobre.